Chantal, Mathieu, bonjour et ravi de vous avoir sur les ondes de Radio Maria France.
Bonjour
Bonjour.
Olivier,
Bonjour
bonjour
Olivier, bonjour à
Mathieu,
tous,
bonjour
bonjour
chers
Chantal.
auditeurs de Radio Maria. C'est une grande joie aujourd'hui. Vous savez que notre thème de chaque mercredi, c'est la joie de la rencontre. Et j'ai pu, dans cette joie, rencontrer Mathieu. Mathieu, bonjour.
Et bonjour Chantal, et bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de Radio Maria. Une bonne année, il est encore
Mathieu.
temps.
Oui, merci beaucoup d'être avec nous parce qu'en fait, tu es à Toulouse. Donc,
Alors
merci.
précisément, je suis entre Toulouse et Carcassonne, voilà, dans la campagne.
Toulouse et Carcassonne. Très bien. Écoute, Mathieu, je vais te laisser te présenter. Hein, tu es marié, père de famille. Voilà, je te laisse te présenter.
Alors, ben, je m'appelle Mathieu, j'ai donc 47 ans. Au mois d'août prochain, je fêterai mes 20 ans de mariage. Voilà. Je suis marié à Vanessa, qui est une amie d'enfance. Et nous avons la joie d'avoir une petite fille qui s'appelle Marie et qui vient de fêter ses 6 ans le 20 novembre. Donc, si elle m'écoutait, elle dirait j'ai 6 ans et 2 mois.
Et voilà, c'est très important. Tout à fait. Elle a bien raison. Mathieu, tu travailles, bien sûr, hein, et parallèlement, on va dire, tu as une passion. Et c'est j'en bafouille, tu vois. Voilà, c'est dans cet objectif-là aussi que j'ai souhaité que tu sois mon invité aujourd'hui pour parler de ta passion aux éditeurs. Voilà, donc en fait, ta passion, on va le dire, hein, ta passion, c'est le karaté.
Alors effectivement, Chantal, effectivement, je travaille parce qu'il faut bien vivre.
Bien sûr.
Mais on va dire que j'ai fait plusieurs métiers, mais le fil conducteur tout au long de ma carrière et même depuis que je suis enfant, c'est effectivement le karaté. Voilà. Dont parfois je me suis éloigné, c'est en fait quelque chose quand même qui a toujours été présent.
Oui, c'est ça. Tellement présent dans ta vie encore aujourd'hui que tu as monté du coup un club, un Castelnaudary, hein, puisque tu es prof en fait, tu es
Voilà, je
prof
suis
de
professeur.
karaté.
Tout à fait, tout à fait.
Professeur de karaté.
Disons qu'à un moment donné, la pratique, c'est pas qu'on en fait jamais le tour, mais le fait de transmettre permet tout simplement de progresser aussi soi-même. Voilà. Et il m'a
C'est ça.
semblé important effectivement de transmettre le karaté et puis les valeurs qui vont autour, comme moi je l'entendais. Parce que j'ai eu dans mon parcours des rencontres avec des professeurs qui techniquement étaient sans doute bien supérieurs à moi, mais qui avaient peut-être une vision un peu, comment dire, mauvaise, je dirais, de cet art martial, parce que même dans leur vie, peut-être, ils n'y voyaient pas clair.
C'est ça. Et si je peux revenir un petit peu sur ton passé, tu m'as confié que tu étais d'une famille nombreuse, une maman qui est croyante, qui est pratiquante, qui vous a donné à tous, hein, toute la fratrie, des valeurs chrétiennes, un esprit de famille, un esprit de partage, et aussi un père qui est absent et qui est violent.
Alors, c'est ça,
Oui.
c'est ça.
Hein,
Donc,
je te laisse,
effectivement, alors,
Mathieu.
c'est ma mère qui est l'aînée de cet enfant. Donc, effectivement, du côté maternel, on a toujours eu des réunions de famille avec énormément de monde. Moi, j'ai simplement un frère aîné. Donc, effectivement, ben, j'avais un père qui est décédé maintenant, mais qui, ben, effectivement, était violent, tant, on va dire, psychiquement que physiquement, et puis absent, c'est vrai. Voilà. Mais je pense qu'il
Alors,
faisait le pauvre comme il pouvait. Voilà.
ouais. Alors, ado, quand tu es ado, ben, tu deviens rebelle. Hein. C'est cousu de fil blanc parfois. Hein.
On peut dire ça.
Hein, voilà, on devient rebelle. Voilà, on est contre la société, contre l'Église, contre. Et puis, heureusement, tu as trouvé un refuge dans le scoutisme et dans le karaté.
Alors c'est vrai que j'allais contraint et forcé à la messe quand j'étais plus jeune, mais bon, c'était le passage obligé, je dirais. Et c'est vrai que j'arrivais quand même Cette violence, en fait, elle se traduisait surtout dans mon comportement vis-à-vis même de mes amis. J'étais quelqu'un de très cinglant. Et mon échappatoire, c'était effectivement les copains, le scoutisme, et puis le karaté, effectivement très tôt, qui a été pour moi un petit peu le cadre qui me manquait sans doute à la maison.
C'est ça, c'est ça. Et une réponse sûrement aussi à une soif que tu as, que tu avais et que tu as toujours, hein, une soif de se donner, de protéger, de défendre le plus petit, le plus faible.
Alors c'est vrai que depuis toujours, j'ai toujours eu deux choses, c'est le souci de l'autre, d'aider, d'être un aidant, et puis en même temps de me battre dans tous les sens du terme contre ce qui me semblait injuste. Voilà. Mais bon,
c'est ça.
parfois quand j'étais plus jeune, peut-être que ma perception de l'injustice n'était pas la bonne.
Donc, je continue un petit peu ton parcours. Du coup, tu deviens servant de messe. Hein? Tu vas aussi t'occuper des enfants du foyer de charité. Tu es musicien, un bon musicien. Hein? Et du coup, tu as envie d'évangéliser hein, dans ce don de toi-même. Tu vas rencontrer la communauté de l'Emmanuel. Tu deviens aussi membre de la communauté de l'Emmanuel. Et puis, tu fais une rencontre aussi avec une personne que. On aime beaucoup, tu t'en doutes, dans notre diocèse de Toulon, c'est Monseigneur Ray. Et puis Monseigneur Ray va te proposer une année de discernement, peut-être pour aller plus loin et pourquoi pas savoir discerner surtout ta vocation, peut-être d'être prêtre ou pas.
Monseigneur Ray, à l'époque, il m'a écrit un mot, alors qu'il y a une phrase qu'on entend souvent, mais qui à l'époque n'était pas encore répandue. Il m'a simplement dit que le Seigneur écrivait droit avec des lignes courbes. Et c'est vrai que c'est une parole qui avait résonné chez moi, parce que bien que j'aille à la messe en reculant, à force effectivement comment dire, de partager toutes ces choses, que ce soit dans les foyers de charité, ces rassemblements de jeunes, effectivement, petit à petit, on va dire que le Seigneur a fait le boulot et qu'en tout cas, je lui ai ouvert la porte pour qu'il le fasse. Et donc, effectivement, c'est comme ça que je me retrouve en discernement, en vue de pourquoi pas de devenir prêtre. Voilà. Mais tout en ayant à cœur de servir les autres toujours.
Oui, c'est ça. Écoute, c'est beau. On a souhaité ensemble d'écouter un chant de Thésée. C'est un passage des écrits de Sainte-Thérèse d'Avila. Et puis, les paroles, je vais traduire parce que le titre, c'est Nada te turbe, avec mon accent un peu espagnol, peut-être. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe. Dieu ne change pas. On va l'écouter, Mathieu, si tu veux bien.
Avec joie.
Merci Mathieu pour ce chant de Sainte Thérèse d'Avila. Et puis, chers auditeurs, donc nous sommes toujours hein, en direct avec Mathieu. Mathieu qui a déjà fait pas mal de choses hein, dans sa longue vie, on va dire. Ce qui nous intéresse aussi, notamment aujourd'hui, c'est justement sa passion pour le karaté et puis le fait d'exercer dans le club qu'il a créé. Et qui peut-être, le karaté serait peut-être un échappatoire à la relation avec ton père, un remède, on va dire, peut-être à la violence. Mathieu, qu'est-ce que pour toi représente la violence ?
Alors, mais la question elle est difficile. La question
c'est difficile. Hein.
Je pense que dans les années 80, même avant, hein, en France, hein, les mauvais garçons, on dira aujourd'hui les délinquants, les pré-délinquants, bah, ils faisaient du karaté. Aujourd'hui, les jeunes qui veulent en découdre, et bah, ils vont sur des trucs encore plus radicaux, le combat en cage, le MMA et compagnie. Donc moi, à l'époque, en fait, j'allais sans doute chercher à exprimer de la violence, à avoir des techniques pour en découdre, avec peut-être en arrière-fond cette idée que bah, ça pouvait servir la justice. Mais un petit peu comme j'allais à l'église à reculons, en réalité, je me trompais complètement sur ce que véhiculait cette discipline. Et tout comme à l'époque, quand j'étais jeune adolescent, je n'avais pas compris qui était le Seigneur en réalité. Et il a fallu que, à la fois, je me laisse, toucher par le Seigneur pour peut-être remettre les choses en ordre dans ma vie. Et en même temps, tout à coup, mon parcours de karatéka a changé également parce que je voyais cette discipline tout à fait différemment. Et donc, le karaté, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est justement l'inverse de la violence, puisque on va dire que c'est un prétexte pour travailler sur soi et pour faire de nous des hommes meilleurs. Donc, quand on est chrétien, c'est un programme qui parle, qui résonne, et en réalité, il n'y a pas de notion de violence dans le karaté, puisque le père moderne du karaté dit qu'en fait c'est un échec quand on arrive à la violence. Mm-hmm. Et que notre comportement doit justement induire l'inverse. Et c'est quelque chose qui est complètement en adéquation avec ma quête spirituelle également en tant que chrétien.
C'est une école de vie pour toi ? Les arts martiaux, c'est une école de vie ?
Alors, c'est complètement une école de vie parce que c'est en fait, aujourd'hui, les gens font du développement personnel, prennent des coachs, vont faire tout un tas de quêtes. Les arts martiaux en général, et le karaté, en ce qui me concerne, dans sa voie traditionnelle, c'est vraiment une école de respect de soi-même, de respect de l'autre, de tolérance, d'humilité. Le but, c'est vraiment d'essayer de tuer l'ego, justement. Et alors moi, quand j'étais ado, j'avais un ego surdimensionné. Je pense qu'aujourd'hui, je me rendrais, enfin, si je revenais à cette époque-là, je ne me supporterais pas moi-même. Et donc, le karaté, en fait, conduit justement à cet effacement et à ce partage. Et donc, c'est vrai que c'est une discipline qui est méconnue parce qu'on se dit c'est finalement un sport individuel, mais en réalité, on progresse grâce aux autres. On progresse, bien sûr, chacun par rapport à soi-même, mais surtout grâce aux autres. Et donc, c'est bien moins individuel qu'il n'y paraît. Et puis, il y a également quelque chose qui est formidable, c'est que on va rencontrer des gens avec qui on va pratiquer, mais qui sont des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, jamais côtoyés dans la vie privée. Et c'est la même chose dans une église, finalement. C'est-à-dire que je suis un médecin généraliste qui est trésorier de mon club. J'ai quelqu'un qui est peu diplômé, qui a du mal à s'exprimer. Je peux très bien avoir un ingénieur. Je peux avoir un jeune réfugiés ou placés par un éducateur. Et en fait, c'est des gens que je n'aurais peut-être pas côtoyés dans la vraie vie, Mais finalement, tout comme quand je vais dans ma paroisse, bah, il y a des gens peut-être à côté de qui je suis assis, que finalement, si je les avais rencontrés dans la rue, jamais je leur aurais parlé.
Oui, c'est ça. Et tu m'as confié aussi, Mathieu, que tu avais des beaux projets hein, dans ton club, des projets justement qui font écho aussi à de véritables témoignages de vie, particulièrement avec les femmes.
Alors, avec les femmes, oui, complètement. Alors, bon, c'est vrai que c'est vrai que je dois beaucoup à ma maman. Et donc, c'est vrai qu'à Radio Maria, je sais que la figure de Marie aussi compte, et comme pour tout chrétien. Et c'est vrai que mon parcours de karaté a toujours été aussi jalonné d'accompagner notamment des femmes. Et je m'aperçois, alors là, une anecdote dont on n'a pas parlé en préparant l'émission, mais un jour, je prépare une femme à une ceinture noire, et puis je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui, par rapport à son corps, qui ne fonctionne pas. Et je lui dis comme ça, tiens, il y a peut-être quelque chose au niveau du menton. Et en fait, cette phrase-là la déstabilise. Et elle me confiera par la suite qu'elle était battue par son père, qu'elle avait fait du karaté pour apprendre à se défendre. Et puis en fait, elle avait physiquement été marquée beaucoup au niveau du visage et du menton. Et en fait, elle s'en était confiée à personne. Et au travers d'un entraînement, elle a pu finalement se partager. Se libérer de quelque chose, et c'est quelqu'un qui aujourd'hui ne pratique plus, mais restée une amie et qui elle-même est soignante. Après, je pense aussi à une karatéka qui s'appelle Laurence Fischer, que je ne connais pas personnellement, mais qui elle, va accompagner des femmes qui sont victimes de violences, voilà, pour leur redonner confiance en elles, et puis leur apprendre les rudiments de karaté qui est en fait simplement qui sont des réflexes que l'on va éduquer, que l'on va domestiquer. Il n'y a pas besoin de faire des études poussées pour pratiquer le karaté. Et je pense aussi à des femmes qui sont atteintes par exemple de maladies comme des cancers, qui pour certaines d'entre elles ont des ablations amères, des choses comme ça. On s'aperçoit que la pratique du karaté, des arts martiaux, leur permet de mieux vivre des temps, par exemple, de chimio. Et pour certaines d'entre elles, le karaté est même délivré sur ordonnance. Alors, je pense à une association qui s'appelle la CAMI, qui notamment fait ça, avec un monsieur qui s'appelle Christian Cabantous. Mais il y a dans les clubs, des gens qui sont avec ce profil-là, un peu atypique et auquel on ne s'attendrait pas. Voilà.
Donc c'est un remède, hein, un bon médicament.
Un bon remède. C'est un bon soutien. C'est un soutien, bon soutien.
Oui.
Voilà.
Pour s'accepter aussi, hein, s'accepter tel que je suis, tel qu'on est, hein, retrouver la confiance en soi, la maîtrise de soi. Hein, c'est tellement important aujourd'hui, hein, chez les jeunes, chez les enfants, et puis finalement à tout âge. Hein, à tout âge, tu l'as relevé, on peut se diriger vers ces arts martiaux. Tu as choisi aussi pour notre deuxième pause musicale, alors là, cette fois-ci, c'est en anglais, hein, tu me fais travailler mes langues, Hold Me, aide-moi, soutiens-moi, et garde-moi bien les pieds sur terre. On va écouter ça, ça décoiffe, hein, chers auditeurs. Accrochez-vous à vos fauteuils. On écoute, Olivier.
Hold me, don't hold me down. Carry me, but keep my feet on the ground. Coming down, oh, on your shelter every time in store. But if you leave me, I've been moving on. You have a hard time drying when the fire is gone. I'll hold you.
Mathieu?
Toujours là.
Tu es toujours là, Mathieu?
Toujours une joie.
Allez, merci, Mathieu. Alors, écoute, malheureusement, on n'a plus que quelques minutes. Hein, on va demander au Père Mathieu d'avoir une émission un petit peu plus longue parce qu'on est toujours, on reste toujours un peu sur notre faim. Mais Mathieu, j'ai envie de te demander, pour clore ce partage, est-ce que tu aurais une devise, par exemple, que tu pourrais nous donner? Est-ce qu'il y a une devise quand on fait du karaté?
Ouh là là,
est-ce que c'est garde-moi bien les pieds sur terre, ça c'est pas
mal. La devise en fait que moi je donnerais, c'est ne jamais rien lâcher. Chez nous, c'est vraiment avoir un esprit fort et ne jamais rien lâcher. Et ben, ça rejoint un petit peu un peu ce que disait Sainte Thérèse d'Avila. Et donc, c'est vrai que c'est pareil avec le Seigneur. C'est que le Seigneur, lui, ne change pas. C'est nous qui changeons. Et en karaté, ben, finalement, c'est pareil. C'est-à-dire que la discipline, on ne peut que progresser. Et dans ma vie de chrétien, je ne peux que progresser. Mais à condition de ne rien lâcher, c'est-à-dire bah, de continuer à m'entraîner et d'avoir confiance. Et puis je pars de là où je pars, qui que je sois, quel que soit mon niveau, quel que soit mon état de santé, quel que soit mon niveau social. Et puis bah, je progresse et puis finalement je progresse humainement. Et je pense que quand on est croyant, c'est un petit peu la même chose. C'est que le Seigneur, il nous prend tel qu'on est. Et puis il nous aide à grandir et à nous fortifier, mais à condition que nous on le lâche pas. Lui est toujours là.
Amen. Merci beaucoup Mathieu. J'aime beaucoup ta phrase de progresser humainement. Je vais me le noter ça. Merci beaucoup.
Chez nous il y a des questions de grade. Il y a des questions de grade et c'est vrai que parfois quel grade on se mettrait humainement. Et donc, parfois, on voit qu'il y a du boulot.
Mmh, tout à fait. Mathieu, je vais devoir rendre l'antenne. Un grand merci. Hein, je pense que les auditeurs aussi ont passé vraiment un bon moment avec toi. Et on te remercie beaucoup d'avoir pris une petite demi-heure de ton temps si précieux pour nous apporter tes lumières.
C'est un vrai plaisir.
Chantal.
Un grand merci Mathieu.
Mathieu, un grand merci de votre passage sur les ondes de Radio Maria France.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir Olivier.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter l'émission Joie de la rencontre. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site radiomaria.fr. À venir, interview, témoignage.
Thank you.
Chers auditeurs, c'est notre émission Interview Témoignage. Aujourd'hui, nous sommes avec Ingrid Dussel pour son livre « S'il te plaît, maman, emmène-moi me confesser ». Ingrid Dussel, bonjour et merci de votre venue, de votre passage sur les ondes de Radio Maria France.
Merci de m'avoir invité.
Eh bien, comment ne pas vous inviter avec un titre si alléchant et une idée si riche et lumineuse? Je rappelle le titre de ce livre publié aux éditions Via Romana. S'il te plaît, maman, emmène-moi me confesser. Je me demande comment vous est venu ce titre? Quelle a été l'idée? Ce n'est pas une idée certainement, c'est une riche expérience de la confession qui vous a amené à le mettre en lumière, comme ça, à le coucher sur papier.
Oui, c'est une longue histoire, mais le titre, c'est une phrase d'un de mes enfants. Une fois m'a demandé maman, il faut que tu nous emmènes nous confesser, parce qu'en fait dans leur école ils étaient habituellement visités par un aumônier qui les confessait tous les mois, et puis une fois l'aumônier n'avait pas pu venir, et donc ils sont rentrés de l'école en me demandant de les emmener. Et c'est vrai que moi-même, je n'étais pas forcément très à l'aise avec ce sacrement. Donc je me suis dit, il faut répondre à cette demande. j'ai organisé les choses pour qu'ils puissent aller se confesser. Mais du coup, ça m'a ouvert beaucoup de recherches, moi, personnelles, pour pouvoir bien leur présenter le sacrement et bien les préparer aussi. Parce que moi, j'avais une adhésion intellectuelle, parce que je percevais bien, j'avais bien compris l'enjeu de la confession pour l'âme, mais je n'avais pas encore une adhésion avec le cœur. Donc moi, j'ai cheminé, j'ai découvert que vraiment, il y avait un enjeu pour la foi, et qu'à partir du moment où on avait vraiment compris que pour recevoir l'Eucharistie, il fallait se reconnaître pécheur, et que sinon on ne pouvait pas recevoir pleinement cette joie eucharistique. Et à ce moment-là, en se reconnaissant pécheur, en s'acceptant pécheur, de facto, on était attiré par la confession, par le puits de la miséricorde divine infinie. Et donc, il fallait...